Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mes bien chers frères, c'est le dimanche des veuves. Vous l'avez remarqué à la fois dans la première lecture, puis dans l'évangile, il est question d'une veuve et il est question même des scribes en rapport avec les veuves. Alors les veuves représentent dans la Bible, en général, une consécration totale à Dieu. Vous le savez peut-être, c'est à partir des communautés de veuves que sont nées les premières communautés religieuses, puisque les premières communautés religieuses n'étaient pas masculines, mais féminines. Voilà où nous sommes, devant quoi nous sommes placés. Avant d'en arriver à ce message des veuves, qui est le message du sacrifice, très clairement, il nous faut passer par la question de la vérité et de l'apparence. J'évoquerai ces deux questions en rapport, évidemment, avec l'Évangile, mais aussi avec la commémoration de ce jour, puisque notre pays a souhaité en faire quelque chose de particulier pour les 100 ans de l'armistice de 1918. Alors, d'abord la question du jugement. Le Seigneur reproche aux scribes ce qu'il reproche en général aussi aux pharisiens. Du temps du Christ, il y a trois grands groupes, si vous voulez. Il y a les lévites, qui sont les prêtres. Il y a les pharisiens, qui sont les docteurs de la loi, plus exactement ceux qui connaissent parfaitement l'Écriture et qui en sont les zélateurs. Et puis il y a les scribes qui sont les savants. Les savants dans la Bible également, hein, mais les savants et qui connaissent les choses. Voilà les trois groupes auxquels notre Seigneur souvent s'est achoppé, parce qu'il certainement il était déçu, c'était forcément les meilleurs. Et il a souvent été déçu et le reproche qui revient sans cesse, c'est toujours le même, c'est le mensonge. C'est d'être hypocrite, c'est de faire semblant. Il ne leur reproche pas de prier longuement, il ne leur reproche même pas d'avoir de longs vêtements. Ce qu'il leur reproche, c'est de faire ça et de n'avoir pas de réalité derrière. Et la preuve, c'est qu'au lieu de faire le bien, ils dévorent le bien des veuves, c'est-à-dire qu'il leur apparat, leur sert à tromper. C'est une question qui est beaucoup plus difficile qu'il y paraît. Parce qu'évidemment, nous, tout le monde est honnête ici. Personne, en se jugeant, va dire « Ah ben, oui, moi, je fais pour l'apparence, mais heureusement que moi, je fais selon mon cœur, mais combien de gens je connais qui sont menteurs, qui font semblant ?» Et ce n'est pas facile, car nous sommes bien obligés de juger sur l'apparence. Souvent, on se désole, on dit « Ah, il ne faut pas juger sur l'apparence. » Mais Pascal nous dit « Heureusement que nous jugeons sur l'apparence des choses, sans quoi nous serions obligés de juger le cœur de chacun, ce qui deviendrait particulièrement hasardeux. » L'apparence, c'est-à-dire celle que vous donnez de vous-même et que je reçois comme vraie si je vous aime, eh bien c'est ce qui correspond à ce que vous êtes. Voilà pourquoi le mensonge est une terrible chose, pourquoi l'hypocrisie est un empêchement à la vie en famille, à la vie en société, à la vie dans une paroisse, à la vie dans une nation, parce que si nous faisons des choses en ne pensant le contraire, eh bien, il n'y a pas de relation véritable qui puisse être possible. Voilà pourquoi le Seigneur sans cesse va appeler à cette vérité et vouloir que nous correspondions à ce que nous sommes et que nous fassions voir notre véritable être dans une apparence qui y corresponde. Voilà pour cette question du jugement qui donne à penser et qui nous invite à sans cesse être plus droit dans notre cœur, qui nous invite à ne pas tomber sous cette condamnation, car ils seront jugés, et ils seront jugés sévèrement, ceux qui n'ont pas voulu dire la vérité, ceux qui n'ont pas voulu être la vérité qu'en plus ils connaissaient, car c'était des scribes. Alors, ces apparences, on peut peut-être les relier avec ces commémorations que nous faisons, qui ne sont qu'apparences, enfin, qui ne sont que des célébrations, des rites laïques, mais des rites quand même, tout autant que ce que nous faisons est un rite, c'est-à-dire un geste, un signe, quelque chose que nous montrons de ce que nous voulons vivre. Alors, je le dis d'abord pour éliminer peut-être cette erreur, cette commémoration qui a beaucoup fait parler, elle n'est pas une question de revanche ou de comme on aurait pu le croire, d'une victoire mal placée. Pour le comprendre, je vous ai placé deux signes, trois signes même différents. Derrière moi, il y a la liste des morts de la Grande Guerre et de la Seconde Guerre mondiale, de la paroisse, des gens qui, de notre paroisse, sont morts un tableau qui habituellement est dans la chapelle des défunts, et pour les noms pour lesquels je vous invite à prier, si vous arrivez à lire, c'est un peu petit, il y a devant cet autel un drapeau français, qui est celui du petit séminaire de Paris. Alors il n'est pas décoré de décoration, qui n'est pas allé au feu, mais il représente ce pourquoi beaucoup sont morts, c'est-à-dire, comme le dit un poète, ce n'est pas le vent qui fait flotter notre drapeau. Ce qui fait flotter notre drapeau, c'est le dernier souffle de tous les soldats qui sont morts en le portant. Oui, ce drapeau est important, il représente la France. Et de l'autre côté, il y a un tableau, je ne sais pas si vous arriverez à reconnaître, c'est Charles de Habsbourg, dans sa tenue de général germain, c'est-à-dire le bienheureux Charles de Habsbourg, lui qui n'a pas fait semblant durant la Première Guerre mondiale, qui a tout fait pour tenter la paix bien avant la fin de la guerre, pour économiser des vies, pour vouloir sceller l'unité, et il l'a fait au prix de son trône. On ne lui a pas pardonné en 1918 d'avoir tout fait pour tenter la paix, et les va-t-en-guerre de l'époque ont tout fait pour détruire son royaume. C'est ce qui lui a valu d'avoir, outre la couronne impériale et royale, d'avoir la plus grande couronne qu'on puisse recevoir, celle au ciel, des bienheureux, tel qu'il a été déclaré par l'Église. Voilà pour poser la question de cet engagement. Commémorer la guerre, c'est faire mémoire, bien entendu, de ceux qui sont morts, mais ceux qui sont morts pour quelque chose, pour établir la paix dans la liberté dans laquelle nous pouvons vivre. C'est un devoir de mémoire que nous avons, c'est aussi un devoir d'engagement pour la paix, car rien n'est jamais gagné pour toujours. C'était mon premier point, vérité et apparence, qui nous permet d'entrer de plein pied et véritablement dans ce message des veuves qui est celui du sacrifice. Que ça soit la veuve de Sarepta, qui n'est pas juive, c'est une païenne, et que ça soit la veuve du temple, qui elle est juive puisqu'elle vient au temple, déjà le Seigneur des deux peuples n'en fait qu'un, des juifs et des païens, et c'est la même attitude, celle de Sarepta nous semble plus immédiatement incroyable comme histoire, puisqu'elle n'a plus rien pour vivre, elle va mourir, elle et son fils, et avant de mourir, elle donnera, malgré tout, ce qui lui reste de pain au prophète. L'autre, celle qui vient au temple, celle qui nous est rapportée dans saint Marc, eh bien, le Seigneur nous dit, car il sonde les cœurs et les reins, c'est une bonne nouvelle, hein, que le Seigneur, lui, ne juge pas sur l'apparence, ou plutôt plus exactement, il juge à la fois et l'apparence et l'intérieur, car il connaît toutes choses, et il sait que cette femme a donné de son nécessaire, qu'elle a tout donné. Ce n'est pas sans évoquer la phrase qu'en tirera Mère Teresa, on n'a rien donné tant qu'on n'a pas tout donné. C'est une invitation, bien entendu, paradigmatique, à se livrer, à donner sa vie, et pour aimer, il faut donner. Il faut que vous vous donniez les uns aux autres dans le mariage, il faut que vous donniez entièrement à vos enfants, il faut que, là où nous sommes, il faut que les prêtres soient entièrement donnés. C'est le fondateur du Prado, j'ai oublié son nom, le père Chevrier, qui disait « le prêtre est un homme mangé ». Eh bien, il faut se donner vraiment si l'on veut pouvoir réaliser l'appel qui est le nôtre d'exister dans l'autre, d'exister vraiment. Cet appel au sacrifice est un appel pressant, et un jour où nous célébrons ceux qui sont morts pour la patrie, ceux qui sont morts pour un pays, c'est-à-dire pour la maison de leur père, eh bien ce n'est pas anodin. C'est un sacrifice qui s'identifie pour nous les chrétiens à celui du Christ. Mourir pour sauver les autres, mourir pour établir la paix, mourir pour ce qui vaut vraiment la peine de vivre, c'est-à-dire la liberté intérieure et la vie dans la paix des familles, la tranquillité de l'ordre, comme dirait saint Augustin, dans cette belle formule qui évoque bien des combats en fait, qui évoque qu'on se donne entièrement. N'ayez jamais peur du sacrifice, ce n'est pas... Bien sûr, il nous effraie, en fait, quand même, car nous préférons vivre en nous-mêmes. Mais ce sacrifice nécessaire, qui signe l'amour réel, c'est ce à quoi nous sommes appelés. Alors, et nous l'espérons, nous n'aurons pas à livrer notre vie par les armes. Nous espérons que le sacrifice déjà fait nous permettra longtemps de vivre en paix, mais nous devons rester vigilants et prêts tous les jours à donner quelque chose de nous-mêmes pour que vive cette paix dans vos familles, dans la paroisse, dans la cité, dans la nation. Voilà le vrai sens chrétien d'une célébration qui n'est pas juste l'appel aux morts, qui commence par l'appel aux morts, ce qui est humain, mais qui finit par le désir de l'éternité qui commence de se réaliser ici, le royaume du Christ, la paix de Dieu, ici et maintenant. Je n'ai pas trouvé mieux pour terminer cette homélie que de vous lire un extrait du poème de Charles Péguy, d'Ève. Rassurez-vous, je vais vous en lire un tout petit extrait, car si vous connaissez le poème de Charles Péguy, il s'étend sur une centaine de pages. Mais Péguy, qui a donné sa vie aux éparges dans mon pays, en Lorraine, qui est allé jusqu'au bout de ce qu'il a écrit, a touché vraiment la réalité et pas l'idée du don de sa vie. Heureux ceux qui sont morts pour la terre charnelle, mais pourvu que ce fût dans une juste guerre. Heureux ceux qui sont morts pour quatre coins de terre. Heureux ceux qui sont morts d'une mort solennelle. Heureux ceux qui sont morts dans les grandes batailles, couchés dessus le sol à la face de Dieu. Heureux ceux qui sont morts en un dernier haut lieu, parmi tout l'appareil des grandes funérailles. Heureux ceux qui sont morts pour des cités charnelles, car elles sont le corps de la cité de Dieu. Heureux ceux qui sont morts pour leur âtre et leur feu, et pour les pauvres honneurs des maisons paternelles. Heureux ceux qui sont morts, car ils sont retournés dans la première argile et la première terre. Heureux ceux qui sont morts dans une juste guerre. Heureux les épimures et les blés moissonnés.